C'est à vous pour les informations. Aurélie Kiffer, bonjour à vous.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Europe ébranlée, le Royaume-Uni claque la porte de l'Union européenne. Le Premier ministre britannique David Cameron prévoit de démissionner à l'automne, nous l'entendrons. À Londres, nous retrouverons Catherine Dutu et Franck Madvon pour analyser le scrutin et ses conséquences. Nous irons bien sûr à Bruxelles, où l'objectif est de rassurer. L'Union est déterminée à garder son unité à 27, affirme le président du Conseil européen, Donald Tusk. À Paris, un Conseil des ministres extraordinaire est prévu cet après-midi. Analyse politique avec Frédéric Saïs. Nous consacrerons donc l'essentiel de ce journal au Brexit et notre invitée sera la vice-présidente du Modem, également députée européenne, Marielle de Sarnez. Dans la seconde partie de la grande table, Caroline.
Eh bien, nous resterons avec votre invitée du journal, Marielle de Sarnez, qui a accepté de rester jusqu'à 13h30 pour parler d'Europe. Nous aurons aussi quelqu'un au téléphone, des écrivains anglais. Enfin, ce sera un joyeux bazar.
À tout de suite. David Cameron annonce son départ dans 3 mois. Le Premier ministre britannique tire les leçons du vote de ses compatriotes, 51,9% contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. David Cameron avait fait campagne en faveur du maintien dans l'UE. Il aura quitté Downing Street en octobre. Écoutez-le.
Je suis très fier et très honoré de diriger ce pays depuis 6 ans. Mais les Britanniques ont pris une décision très claire. Et je pense que le pays a besoin d'un nouveau leader. Je ferai tout ce qu'il faut en tant que Premier ministre pour diriger ce bateau pendant les prochaines semaines et prochains mois. Je n'ai pas pris cette décision à la légère, mais je crois que c'est dans l'intérêt national d'aller vers un nouveau gouvernement. Peut-être pas aujourd'hui, mais il faudra sans doute un nouveau Premier ministre à partir du mois d'octobre.
Et l'on retrouve tout de suite notre correspondant à Londres, Franck Madvon. Bonjour Franck.
Bonjour.
Alors hier, les sondages donnaient le in gagnant, c'est finalement le out qui l'a emporté. Et pour le Royaume-Uni, c'est donc aujourd'hui le saut dans l'inconnu, le Brexit devient réalité. Comment les Britanniques réagissent-ils ?
Alors évidemment, les réactions sont partagées. Elles sont à l'image de ce pays profondément divisé, vu de Londres. Ici, ce Brexit est à peine croyable. La capitale britannique a massivement voté pour le Remain. Mais ailleurs, dans l'Angleterre du Nord, du Centre, l'Angleterre des classes populaires, le vote anti-UE a été très supérieur aux attentes. Et dans ces régions, ce Brexit est perçu sans doute comme une délivrance, un moyen de lutter contre l'immigration d'Europe de l'Est, de retrouver la souveraineté du pays. Il est certain, en tout cas, que ce royaume est aujourd'hui désuni, divisé entre élites et classes populaires, entre villes et campagnes, entre jeunes et seniors, entre Écosse et Angleterre. Ce vote pourrait entraîner un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qui a voté pour le maintien dans l'UE massivement. Le pays qui a voté pour le Brexit est traversé par de très nombreuses fractures.
Et c'est donc, Franck, un cruel désaveu pour David Cameron qui en tire les conséquences.
Oui, alors David Cameron n'avait pas vraiment le choix. Il a voulu ce référendum, il a défendu le Remain, il a perdu. Il est logique d'une certaine manière qu'il démissionne, même s'il a dit le contraire pendant toute la campagne. Il s'est entretenu ce matin avec la reine au palais de Buckingham. Il restera sans doute jusqu'en octobre, a-t-il dit, vous l'avez entendu, à la tête du pays pour stabiliser le bateau, selon son expression. David Cameron passera ensuite la main à un nouveau gouvernement, eurosceptique certainement, qui sera en charge des négociations sur le Brexit avec Bruxelles. L'une des questions du jour, c'est bien sûr celle de sa succession. Tout le monde se tourne vers Boris Johnson, principale figure du camp du Leave. L'ancien maire de Londres a pris la parole il y a une quinzaine de minutes maintenant. Il a adopté un ton très solennel et a lancé un message de réconciliation. Le Royaume-Uni restera une puissance politique européenne, a-t-il dit. Il souhaite une sortie de l'UE sans précipitation. Boris Johnson n'a pas évoqué ses ambitions, son avenir, mais il apparaît maintenant comme le grand favori à la succession de David Cameron.
Merci Franck Madvon, en direct de Londres. Alors, qui a voté en faveur du Brexit ? Antoine Gignoux a passé la nuit dans un bureau de dépouillement à Birmingham, dans les Midlands, en plein centre de l'Angleterre. Reportage.
À chaque nouvelle annonce de résultat, c'est une explosion de joie. L'ouest des Midlands a largement plébiscité la sortie de l'Union européenne. Même le centre-ville de Birmingham, avec son université, son quartier d'affaires, a voté pour le Brexit. Coup de tonnerre, Patrick Smith, militant du parti d'extrême droite UKIP, a mené la campagne dans la région. C'est phénoménal, dit-il, un résultat incroyable. Ça a été très difficile ici. On nous a dit qu'on était racistes, xénophobes, on nous a dit qu'on détestait les gens. Ce n'est pas vrai. On aime les Européens, mais on aime la singularité. Que les Français soient français, que les Italiens soient italiens et que les Allemands soient allemands. Il est temps que le gouvernement comprenne ce que veut le peuple du Royaume-Uni. Le contrôle des frontières, l'identité nationale, c'est le discours de la plupart des militants ici. Pour James Carver, député du Parlement européen, ce séisme politique va s'étendre à l'ensemble du continent. La politique va changer pour toujours au Royaume-Uni. Mais ce qui est fascinant, c'est que notre référendum ici a ouvert des portes en France, aux Pays-Bas, au Danemark, qui tournent maintenant le dos à cette union politique. On voulait un marché commun, ce n'est pas de ça dont il s'agit, on quitte une union politique. Les défenseurs du camp adverse, ceux qui voulaient rester dans l'Europe, eux, ont disparu dès le milieu de la soirée sans faire aucun commentaire.
Les résultats du référendum montrent un Royaume-Uni profondément divisé. Le nord de l'Angleterre et le Pays de Galles ont voté pour la sortie de l'Union européenne, tandis que Londres, l'Irlande et l'Écosse voulaient rester dans l'Union. À Glasgow, Jérôme Jadot a rencontré des europhiles extrêmement déçus.
Un coup de massue, c'est ce qu'ont reçu ce matin ces militants de Scotland Stronger in Europe, l'Écosse plus forte dans l'Europe. Quand la BBC a annoncé que le Remain ne pourrait plus remonter son retard sur le Leave, on s'est pris la tête dans les mains, les larmes ont coulé sur les joues et plus un mot n'a été prononcé pendant plusieurs minutes. Jenny, 34 ans, est membre du Parti Labour.
Je suis dévasté. C'est la pire chose qui soit jamais arrivée au pays et à ma génération. C'est bien pire que de perdre une élection parce qu'après, on peut se battre pour essayer de gagner la suivante. Là, c'est un changement pour ce pays, pour tous les pays d'Europe et pour plusieurs décennies. C'est vraiment bouleversant.
Énorme choc pour ces pro-européens. Certains ont travaillé à Bruxelles. Il y a également ici des enseignants, des retraités, des étudiants convaincus que l'Europe est un plus, que l'Europe est une chance et qui s'envoient tirer dehors contre leur gré, puisque l'Écosse a, elle, voté largement pour le maintien à 62%, un décalage qui ne sera pas sans conséquence aux yeux de Stephen, militant du SNP, le parti indépendantiste écossais.
L'Écosse a toujours montré qu'elle était différente de l'Angleterre, qu'elle a l'esprit indépendant. On a toujours été plus ouvert sur le monde, plus européen, plus international, et ça renforce encore cela. Et les chemins de l'Écosse et de l'Angleterre, si ce n'est pas tout de suite, au moins à moyen ou à long terme, devront se séparer.
D'autres s'inquiètent ici du sort des Européens qui habitent en Écosse. Il faudra négocier pour les préserver, pour préserver leur statut, entend-on. Mais le problème, c'est que le camp du Brexit n'a aucun plan pour la suite, peste un participant. La suite, dit-il, c'est tout simplement le chaos.
Catherine Dutu, vous êtes l'envoyée spéciale de France Culture à Londres. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons revenir dans un instant avec vous sur la cartographie du scrutin. Alors, qui a voté quoi ?
Si la région de Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont voté pour le Remain, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, le nord de l'Angleterre, le centre, les Midlands et la Cornouaille au sud-est ont largement opté pour le Brexit, tout comme le Pays de Galles. Si l'on regarde encore plus en détail les 12 régions britanniques, dans le nord-est, la classe ouvrière semble avoir été séduite par les thèmes de campagne du Brexit, l'immigration, l'économie et la défiance contre l'establishment. Le basculement de villes comme Durham, Northumberland a pesé dans la victoire du Leave, ainsi que le Brexit choisi par une ville comme Birmingham à l'ouest des Midlands, ville qui connaît un fort taux d'immigration non européenne. Pro-Brexit également, l'est de l'Angleterre, région où le député Douglas Carswell a obtenu le siège du UKIP au Parlement, une des zones les plus sinistrées socialement du Royaume-Uni avec 33% de chômage chez les jeunes. À rebours, Londres, capitale multiculturelle qui abrite également la City, a sans surprise voté pour le maintien dans l'Union européenne jusqu'à plus de 70% dans certaines banlieues londoniennes. Quant à l'Écosse, où le Remain est également arrivé en tête, Nicola Sturgeon, à la tête du gouvernement et des nationalistes écossais, a déclaré qu'elle voyait l'avenir de son pays au sein de l'Union européenne. En clair, pas question d'en sortir contre son gré. Un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse pourrait donc être bientôt organisé. Menace sur l'intégrité du Royaume-Uni, également brandie par le Sinn Féin, l'ancienne vitrine politique de l'IRA, qui appelle à réunifier l'Irlande, également par référendum, puisque l'Irlande du Nord a voté pour le maintien dans l'UE, Aurélie.
Merci Catherine Dutu. Vous avez interrogé un juriste pour connaître les conséquences très concrètes du Brexit. Après le vote, que va-t-il se passer exactement? Quelles sont les échéances? La réponse de Jean-Claude Piris, membre du comité scientifique de la Fondation Robert Schuman.
Le point de départ du délai de la sortie du Royaume-Uni, ce n'est pas le référendum, mais c'est premièrement une lettre, une communication du gouvernement britannique disant qu'il déclenche cette procédure. Cette lettre ne va pas arriver immédiatement, à mon avis, parce qu'il y aura des remous politiques au Royaume-Uni et qu'il faudra que le gouvernement consulte le Parlement, où il y aura un vote confirmant le référendum. J'imagine très bien qu'il y ait un délai de quelques mois jusqu'à la rentrée de septembre-octobre. À ce moment-là démarre un délai de 2 ans prévu par le traité pour négocier entre l'Union européenne, des 27 bien sûr, représentés par la Commission, qui négociera avec le Royaume-Uni pour régler les conditions du divorce, les travaux qui sont en cours, les droits et obligations des particuliers ou des entreprises, les affaires de concurrence, d'extradition, etc. Donc on a 2 ans pour régler ça, qui peuvent être d'ailleurs allongés d'une année. Une fois que cet accord de divorce est terminé, c'est ce jour-là que la sortie réelle du Royaume-Uni intervient. Et à ce moment-là, il y aura une autre négociation qui sera encore plus difficile pour établir les relations futures entre les deux entités. Nous avons bâti un marché intérieur dans l'Union entre les 28, donc il n'y a pas de droits de douane, il n'y a pas de restrictions aux échanges, nous adoptons les mêmes normes, etc. Le seul modèle possible, c'est de négocier un traité de commerce et d'association qui serait un peu inédit, mais sans avoir une participation totale au marché intérieur, comme là la Norvège et la Suisse. Parce que plus vous voulez avoir accès au marché intérieur, et plus vous êtes colonisé politiquement, parce que vous devez recopier les lois sur le marché intérieur qui sont adoptées par l'Union européenne et pas par vous.
Le juriste Jean-Claude Piris. Marielle de Sarnez, députée européenne et vice-présidente du Modem, est l'invitée de ce journal. Bonjour madame.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe au Parlement européen. Personnellement, comment est-ce que vous avez accueilli l'annonce du Brexit ce matin?
C'est évidemment un choc. C'est un choc dont on mesure, je crois, pas les conséquences encore à l'heure où nous parlons. J'ai entendu tous ceux qui s'exprimaient, ils avaient absolument raison, mais il va y avoir des conséquences en chaîne qui sont, je pense, sous-estimées aujourd'hui. Des conséquences économiques, des conséquences sociales, des conséquences politiques, évidemment, et pour moi, c'est extrêmement lourd. Il va y avoir des conséquences pour la Grande-Bretagne, donc pas seulement économiques, mais je vois avec les réactions qui se passent, ce qui se passe en Écosse, ce qui se passe en Irlande, il peut y avoir à terme un démantèlement, entre guillemets, du Royaume-Uni, avec une volonté affichée de l'indépendance de l'Écosse pour s'inscrire dans le cadre de l'Europe, et puis une volonté aussi de réunification en Irlande. En Irlande, ça va être, vous imaginez ce que c'est que le retour à des frontières en Irlande, ça va être quelque chose de très très difficile à vivre par les Irlandais. Donc tout ça n'est absolument pas stabilisé, c'est au fond une espèce de saut dans l'inconnu complet, dont on sous-estime, je le crains, je pense, toutes les conséquences. Ça, c'est la première chose. Mais ce ne sont pas des conséquences que pour la Grande-Bretagne, ce sont aussi évidemment des conséquences pour l'Union européenne et pour l'Europe.
On va y revenir. Vous comprenez les ressorts de ce vote?
J'essaye de le comprendre, parce que je crois que c'est très important de porter le diagnostic juste si on veut essayer d'apporter les bonnes réponses. Je vois au moins, en tous les cas, il y a au moins une raison prégnante, c'est qu'on ne peut pas faire l'Europe sans les peuples. Vous savez, moi, c'est quelque chose que je dis, que nous disons avec François Bayrou depuis toujours. L'Europe, elle a été construite au début sur une idée initiale qui était au fond, on décide de l'Europe entre initiés. Il y a des initiés, il y a un petit entre-soi, parce que comme c'est compliqué, on laisse ça aux initiés et aux experts. Alors voilà, c'était comme ça il y a plusieurs décennies. Imaginez que ça soit encore comme ça aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, ça c'est quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir changer de paradigme, mais complètement changer de logiciel, complètement. Ensuite, on a conçu l'Europe, au fond, ça c'est le paradoxe, comme un marché, et pas comme une entité politique. Et le paradoxe, c'est que la Grande-Bretagne, qui voulait un marché, va quitter le marché. Et donc ça va poser la question à ce nouveau rendez-vous que j'appelle de mes voeux, de savoir ce que nous voulons faire ensemble. Alors, est-ce qu'on veut faire un marché? C'est une question, on va y revenir dans une seconde. Ou est-ce qu'il faut, d'une part, un marché, avec ceux qui veulent, pourquoi pas, le plus élargi possible. Mais à ce moment-là, c'est juste affaire de commerce. Moi, je donne pas ma vie à des questions de commerce.
Merci, Marielle Sarrel.
C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de construire l'Europe politique.
Saut dans l'inconnu, disiez-vous. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour l'instant, le Brexit effraie les marchés financiers. Une secousse mondiale, Aurélie.
Oui, et l'onde de choc est impressionnante. Avec nous, Marie Viennot, du service économie de France Culture. Bonjour Marie.
Bonjour.
Dès l'annonce du Brexit, la livre britannique s'est effondrée et la panique a gagné les marchés mondiaux.
Oui, on pouvait s'y attendre, hein, mais l'ampleur de la chute a surpris les marchés eux-mêmes, sans doute parce qu'ils n'avaient pas vraiment prévu le Brexit. Alors cela concerne toutes les bourses ouvertes à cette heure. Tokyo a fermé en baisse de 8%. Paris, Francfort et Londres chutent aussi de quasi 8%. Les banques britanniques sont les plus affectées. Les actions de Barclays et Royal Bank of Scotland ont perdu 17 à 21% de leur valeur, ce qui représente plus de 100 milliards d'euros de capitalisation boursière partie en fumée. Toutes les banques sont touchées, d'ailleurs les françaises, les allemandes, les espagnoles, les italiennes. Les baisses sont spectaculaires et frôlent parfois les 20%. Alors c'est le signe d'une peur presque panique que les banques n'aient pas la situation sous contrôle et fassent de grandes pertes sur les marchés en ce moment même, malgré leur dire rassurant. C'est aussi la crainte que l'économie européenne ne pâtisse de ce Brexit, ce qui aura au final des conséquences sur les banques et leur rentabilité. Et puis autre explication inédite, celle-là, le départ du Royaume-Uni va obliger les banques à voir une partie de leur implantation dans la City de Londres et c'est un vrai choc à venir. Alors l'autre marché qui pâtit du résultat de ce vote, c'est le marché des changes. Vous le disiez, la livre plonge de 7% par rapport au dollar et l'euro plonge aussi face au dollar. Nouvelle preuve que les marchés anticipent des difficultés économiques, pas seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Europe continentale.
Et est-ce qu'il y a un risque plus général sur les marchés financiers au niveau mondial ?
Alors ce qui est terrible pour les marchés et l'économie réelle qui en dépend, c'est la panne de crédit. Quand la peur est telle que les banques ne se prêtent plus entre elles, comme en 2008, et que toute l'économie est grippée. Alors pour éviter cela, les banques centrales ont déjà annoncé, notamment la Banque d'Angleterre et la BCE, qu'elles injecteraient toutes les liquidités qu'il faut dans les circuits financiers. Keep calm, donc, comme on l'entend souvent, Inde, surveillance accrue tout de même.
Merci Marie Viennot. L'Union européenne regrette mais respecte la décision britannique, c'est ce que l'UE indique dans un communiqué commun. Il n'y aura pas de renégociation de l'accord conclu en février entre la Grande-Bretagne et ses partenaires. Le Royaume-Uni est invité à lancer la procédure de sortie dès que possible. On retrouve Bruno Cadenne en direct de Bruxelles. Bruno, l'Union européenne se doit d'envoyer des signaux rassurants malgré toutes les questions qui se posent aujourd'hui.
Ne pas paniquer et penser déjà à la suite. Les institutions européennes ne veulent pas ajouter du stress à la confusion. Le premier à s'être exprimé tôt ce matin a été Donald Tusk. Le président du Conseil européen a certes parlé d'une journée historique, mais qui ne devait pas devenir hystérique. Donald Tusk a rappelé que l'UE avait imaginé cette possibilité de Brexit et que les 27, car désormais à Bruxelles on parle déjà de l'Europe des 27, devraient rester fortes et unies. Mais pour l'ancien Premier ministre polonais, ce départ des Britanniques ne doit pas empêcher l'UE de réfléchir à son avenir et il a terminé en rappelant que ce qui ne tue pas rend plus fort. Même tonalité quelques instants plus tard au Parlement européen avec son président Martin Schulz qui, s'il a parlé d'un jour très triste, a quand même estimé qu'il fallait de la stabilité pour les 27 États membres. Le chef des eurodéputés a appelé lui aussi les 27 à l'unité pour améliorer l'UE et protéger la zone euro dans cette période turbulente. Quant au commissaire européen britannique et aux eurodéputés britanniques, ils restent en poste tant que le départ britannique n'est pas entré dans les faits et si les négociations pourraient durer 2 ans jusqu'aux prochaines élections européennes. Sauf qu'en fait, les institutions européennes ont visiblement envie d'aller plus vite et de tourner définitivement la page britannique. Car en fait, dans les couloirs du Parlement européen ici à Bruxelles, ce sont finalement les pro-européens qui sont les plus remontés. De nombreux députés de droite et de gauche appellent de leur vœu à un pas fédéral, à une initiative franco-allemande importante pour sortir l'UE de l'ornière et redonner un sens politique au projet européen.
Et nous allons également en Allemagne, où Cyril Sauvageau, notre correspondant à Berlin, nous rend compte des réactions.
À Berlin, les grandes manœuvres ont commencé pour répondre au choc provoqué par le Brexit. Dès demain, le chef de la diplomatie allemande accueillera ses homologues des pays fondateurs de l'Union pour une réunion de crise. Et lundi, François Hollande sera à Berlin pour rencontrer Angela Merkel. Les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone tout à l'heure. Pour la chancelière, la priorité absolue, c'est de maintenir l'unité de l'Europe et éviter la contagion. Message relayé dès ce matin par le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble. Nous devons regarder de l'avant et rester solidaires pour trouver trouver une solution commune. La grande inquiétude des Allemands, c'est l'effet domino, avec des partis anti-européens qui réclament déjà tour à tour des référendums similaires. En Allemagne, les populistes de l'AFD se sentent pousser des ailes. La vice-présidente du parti salue une journée historique. Le peuple a parlé. Elle demande la démission de Jean-Claude Juncker et de Martin Schulz, le président allemand du Parlement européen. Enfin, pour le parti d'extrême gauche Die Linke, cet échec est aussi celui d'Angela Merkel. La politique d'austérité néolibérale a nourri l'euroscepticisme et le nationalisme.
Madame de Sarnez, est-ce que le couple franco-allemand peut sauver l'Union européenne ?
Encore faudrait-il qu'il existe ? Et c'est ça absolument toute la question. D'ailleurs, on le voit, ils vont à Berlin. S'il y avait un couple franco-allemand, peut-être c'eût été différent. Il ne peut pas y avoir de couple franco-allemand quand la France est faible, quand la France est absente de la réflexion européenne, quand la France est fragilisée par toutes les crises qu'elle vit et qu'elle a vécues. Et c'est ça qui est toute la dimension du problème pour nous, Français, pour nous, Européens. Parce que je crois qu'on a vitalement besoin de repenser le projet européen. Et la réponse n'est pas que, entre guillemets, fédéralisme. On y reviendra peut-être, mais ça serait une réponse trop simpliste. Il faut retrouver la voie de la démocratie. On ne peut pas faire l'Europe sans les peuples. Pour ça, il faut du leadership. Et du leadership en France, il n'y en a pas au jour d'aujourd'hui. Et en particulier, il n'y en a pas sur la question européenne. Et donc, moi, je vous dis qu'on ne va pas se satisfaire d'un espèce de replâtrage ou de déclaration comme ça d'intention. Et je crains que les réponses ne soient pas apportées, ne soient pas à la hauteur. Il faut du leadership, il faut de la vision, il faut de la créativité dans la vision. Il ne faut pas simplement refaire ce qui est fait depuis des décennies. Il va falloir penser différemment, penser autrement. Je crains qu'il va falloir attendre de ce point de vue-là la campagne présidentielle qui va s'ouvrir.
Merci Marielle de Sarnez. On va aller en Espagne maintenant, où les électeurs se rendent aux urnes dimanche pour les législatives. L'Union européenne doit être réformée, mais elle survivra au Brexit, déclare le Premier ministre Mariano Rajoy. L'Espagne est prête à supporter tout choc économique consécutif au Brexit, ajoute le chef du gouvernement. Annabelle Grelier, vous êtes à Madrid. Quels effets le Brexit peut-il avoir en Espagne ?
La première onde de choc pour le pays, Aurélie, se joue ce matin sur les marchés financiers. Les banques espagnoles ont toutes accusé des chutes historiques. Banco Santander, par exemple, le titre a perdu ce matin plus de 18%. Banco Sabadell, moins 20%. Et puis la plus grosse perte porte sur la compagnie aérienne IAG, la fusion entre British Airways et Iberia, qui accuse une chute de 23%. En règle générale, l'IBEX 35, notre équivalent du CAC 40, a chuté de plus de 11%. Les fonds d'investissement anglo-saxons sont très actifs ici sur le marché de l'immobilier, et donc les risques pèsent également sur l'immobilier, tout comme les expatriés. Ils sont officiellement près de 320 000 expatriés anglais vivant en Espagne, et principalement des retraités qui pourraient notamment voir les revenus de leur pension fondre comme neige au soleil en raison de la forte dépréciation de la livre, ce qui pourrait aussi compromettre leurs investissements immobiliers dans leur pays d'adoption. L'autre conséquence du Brexit en Espagne porte sur la question très délicate de souveraineté sur l'enclave britannique de Gibraltar. La rétrocession de cette péninsule de 7 km² est régulièrement réclamée par Madrid. Le ministre des Affaires étrangères espagnol a proposé ce matin une souveraineté partagée entre l'Espagne et le Royaume-Uni pour Gibraltar, lui permettant d'avoir accès au marché intérieur de l'Union européenne, après le Brexit donc, et pour déboucher à terme sur une restitution.
Et en un mot, Annabelle, est-ce que le Brexit peut aussi avoir une influence sur la campagne électorale en Espagne ?
Oui, évidemment. Mariano Rajoy, très affaibli dans cette campagne par les affaires de corruption, saute à pieds joints sur le Brexit en jouant de son image de chef du gouvernement, seul à pouvoir assurer la stabilité du pays. Les Espagnols ont plus à craindre de la victoire de Podemos dimanche que du Brexit, a-t-il déclaré. Un argument récupéré également par les socialistes du PSOE et les libéraux de Ciudadanos. Car si Podemos est un parti pro-européen, il est le seul à avoir plaidé pour un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Une position qui lui est reprochée par les partis concurrents et principalement les socialistes, qui voyant un obstacle à un possible gouvernement de coalition si Podemos l'emportait dimanche. Les derniers sondages donnent le Parti populaire toujours gagnant, mais avec le plus faible résultat de son histoire, quand Podemos est donné second devant les socialistes.
Merci Annabelle Grelier, en direct de Madrid.
Après ce tour d'Europe, la France, où le ton est grave, François Hollande s'est exprimé vers midi.
Oui, le danger est immense face au populisme et aux extrémismes. François Hollande fait part de son inquiétude au lendemain du vote britannique. Un conseil des ministres extraordinaire est prévu à l'Élysée cet après-midi. Frédéric Sey, vous avez écouté le chef de l'État.
Oui, François Hollande n'a pas cherché à euphémiser le choc de cette annonce. Un regret, un choix douloureux, dit-il.
Aujourd'hui, c'est l'histoire qui frappe à notre porte. Ce qui se joue, c'est la dilution de l'Europe au risque du repli. ou la réaffirmation de son existence au prix de changements profonds. Dans cette période si décisive, soyons à la hauteur de la circonstance que nous traversons.
Il est plus rapide de détruire que de construire, prévient encore François Hollande. Un sursaut est nécessaire, dit-il. Il s'envole lundi pour Berlin, où il rencontrera Angela Merkel et Matteo Renzi, le président du Conseil italien, avant un conseil exceptionnel mardi à Bruxelles. Pas de proposition concrète dans cette allocution pour l'instant, mais quatre grands thèmes sont évoqués.
La sécurité et la défense de notre continent, pour protéger nos frontières et pour préserver la paix face aux menaces. L'investissement pour la croissance et pour l'emploi, pour mettre en œuvre des politiques industrielles dans le domaine des nouvelles technologies et de la transition énergétique. L'harmonisation fiscale et sociale pour donner à nos économies des règles et à nos concitoyens des garanties. Enfin, le renforcement de la zone euro et de sa gouvernance démocratique.
Et puis au cours de cette allocution d'un peu moins de 10 minutes, on a ressenti une tonalité assez inhabituelle dans la bouche du pourtant très pro-européen François Hollande. Entre les lignes, il reproche à l'Europe de vouloir s'occuper de tout, de trop en faire.
L'Europe, et c'est ma conviction, doit porter des projets et non pas se perdre en procédure. Elle doit être comprise et contrôlée par les citoyens. Elle doit décider vite là où on l'attend et laisser une fois pour toutes aux États-nations ce qui relève de leur seule compétence.
Et chez François Hollande, on ressent un coup dur, un vrai, et comme dans la vie, pour les coups durs, on se replie sur sa famille, c'est tout un symbole. Il ira voir donc Angela Merkel. Demain, Jean-Marc Ayrault participera à une réunion avec les 6 membres fondateurs de l'Union européenne, comme s'il fallait en retourner à l'origine.
Merci Frédéric Saïs et bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Aurélie.
On a entendu la gravité de François Hollande dans le camp des eurosceptiques. À l'inverse, c'est la satisfaction.
Oui, les eurosceptiques en général, le Front National en particulier, qui a toujours milité pour cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce Brexit, c'est une victoire de la liberté, a écrit ce matin Marine Le Pen sur son compte Twitter. Sa nièce Marion Maréchal a renchéri, toujours sur Twitter, en écrivant « Du Brexit au Frexit, il est temps d'importer la démocratie dans notre pays ». Et oui, parce que ce Brexit, pour le FN, c'est la première pièce du puzzle que l'on commencerait à défaire et qui pourrait entraîner dans un effet domino un détricotage de l'Europe dans une perspective de retour aux États-nations. Ce Brexit doit nécessairement conduire à un Frexit, c'est-à-dire à une sortie de la France, de l'Union européenne. Il faut maintenant le même référendum en France et dans les autres pays de l'Union, a poursuivi la présidente du Front National, et le plus vite possible, ajoute son bras droit Florian Philippot. Il y a un mois, en mai dernier, la défaite du candidat d'extrême droite à la présidentielle en Autriche avait été un coup dur pour le Front National, puisqu'elle avait montré cette défaite une nouvelle fois la difficulté des populistes et des eurosceptiques à s'imposer. Cette victoire du non à l'Europe au Royaume-Uni apparaît donc comme une revanche pour le FN, en tout cas comme une décision qui ouvre des perspectives partout en Europe, mais d'abord et avant tout en France, à moins d'un an de la présidentielle. Cette sortie britannique de l'Union va certainement s'inviter massivement dans la campagne électorale qui débutera à la rentrée en septembre. Car le FN montre là qu'il compte bien s'en servir pour tenter de persuader les Français que le plafond de verre électoral qu'il rencontre au fil des élections peut être brisé. Alors est-ce le cas? Est-ce possible? En tout cas, ce référendum britannique constitue un violent coup de boutoir qui l'a sans doute un peu plus encore fragilisé.
Marielle de Sarnez, vous restez en studio avec nous. Vous pourrez poursuivre le débat avec Caroline Brouet dans un instant. On voulait vous faire entendre, pour conclure, la réaction d'un artiste britannique, Anish Kapoor. Invité du Collège de France, il a prononcé hier une leçon inaugurale en partenariat avec France Culture. Il se dit horrifié par le résultat du référendum.
Je suis horrifié. Nous sommes tous horrifiés, je crois. Depuis la guerre, il y a eu l'idée que nous pourrions avoir un projet cosmopolite en Europe. Et la Grande-Bretagne a toujours été un leader dans le dialogue concernant l'Europe. Et là, on vient de reculer d'un grand pas vers la xénophobie, vers l'extrême droite, qui donne une voix à cette droite-là dans toute l'Europe, et qui signifie que notre projet, si vous voulez, d'unité et d'être ensemble, de vivre ensemble, va peu terminer. Et la Grande-Bretagne semble tomber dans l'abysse. Je crois que l'autre résultat de cette discussion et de cette perte de temps depuis 3-4 mois en Grande-Bretagne, c'est que C'est une discussion qui a divisé notre société entre ceux qui, peut-être, sont allés à l'université et ont une culture, une vision cosmopolite, et ceux, en général, qui se voient eux-mêmes comme la base de ce que c'est que la nationalité, que l'état même d'être britannique. Mais c'est une sorte de fausse discrimination. La Grande-Bretagne est un pays profondément libéral. Et soudain, nous voici jetés dans l'étroitesse d'esprit, la peur, les divisions entre nous-mêmes.
Anish Kapoor au micro de Guillaume Erner. Le temps de ce vendredi, il est comme l'Europe, perturbé. Les maximales iront de 18 degrés près de la Manche à 37 dans l'intérieur de la Provence. Ce journal a été préparé avec Yacine Bouzard. Les prochaines informations, c'est à 18h avec Anne Fauquemberg.